Interview.
Bonjour.
Salut, bonjour tout le monde.
Bonjour sur RC2.
Dans le cadre d'une journée exceptionnelle, l'association Survie Rouen a reçu son président national, François-Xavier Verschave, économiste, journaliste et écrivain, spécialiste des relations franco-africaines. Monsieur Verschave était accompagné de René Vautier, cinéaste breton militant, et de Monsieur Sof El Badawi, écrivain, pour la sortie de l'ouvrage collectif Dernières nouvelles de France-Afrique. Après Mongo Betty, illustre créateur à Rouen, des éditions Peuple Noir, Peuple Africain, François-Xavier Verschave est devenu en France le maître d'œuvre d'un engagement sincère pour de nouvelles relations franco-africaines basées sur le respect et la solidarité. Pour parler de cette journée, RC2 reçoit aujourd'hui Mathieu Jules, président de l'association Survire-moi. Bonjour.
Bonjour.
Avant de parler de cette journée et des personnalités qui l'ont animée, pouvez-vous nous rappeler les grandes lignes de l'engagement de l'association Survie ?
Alors les objectifs de l'association Survie Nationale, qui sont repris par les groupes locaux, sont de ramener à la raison la politique de la France en Afrique, qui est un lourd combat, lutter contre la banalisation des génocides et crimes contre l'humanité, intervenir pour le développement des pays du Sud et la préservation des biens publics à l'échelle mondiale. Voilà.
Merci. Je vous propose d'écouter Cesaria Evora dans une chanson que tout le monde connaît, Saudade, mais dans une très belle version en duo avec Bonga.
Si vos escribim, te escribim,
voz que sempre esquecer. Até o dia que não voltar. Se vou escrever, tá escrever. Se voz que sempre esquecer. Até o dia que não voltar. Saudade. 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 É sim a terra sem inclar. Saudade, 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 é sim a terra salinha. Saudade, 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 é sim a terra salinha. Saudade, saudade.
Mathieu Jules, vous êtes le président de l'association Survie Rouen. Est-ce que vous voulez bien nous dire quels sont vos objectifs pour Survie Rouen et nous dire comment s'est passée cette journée exceptionnelle?
Alors à Rouen, nos objectifs sont de fédérer un maximum de gens, informer la population sur les thèmes de la France-Afrique. Ils sont également pour cela d'organiser des grandes journées où nous recevrons des spécialistes de la France-Afrique et puis de nous réunir tous les deux mois pour penser à travailler sur Rouen localement à ces questions. Donc là, nous avons organisé une journée où il y avait trois grands événements. Il y avait donc l'interview sur la radio HDR de Monsieur Verschave et de Monsieur René Vautier. Il est suivi donc d'un forum FNAC avec présentation du livre Dernière nouvelle de la France-Afrique de Seuf El Badawi. C'est un livre collectif qui est vendu dès maintenant un peu partout dans les FNAC et autres. Un livre publié par édition Vendailleurs. Et puis donc nous avons eu une conférence le soir très intéressante où Monsieur René Vautier et Monsieur Verschave ont pu échanger beaucoup de choses avec le public. Il y a eu un débat très très intéressant avec le public et donc c'était sur le thème Afrique noire et Maghreb face à la France-Afrique des années de résistance. Et nous avons projeté un film qui est un film très important pour nous, c'est Afrique 50 de Monsieur René Vautier.
Dans ses ouvrages, que ce soit Noir Chirac ou Noir Silence, Monsieur Verschave dénonce la politique de la France en Afrique en parlant de néocolonialisme et en déplorant l'inertie des Français. Est-ce qu'à votre avis, il s'agit d'un désintéressement ou d'un manque d'information?
Alors moi, j'ai travaillé sur cette question importante. Il y a des informations sur le site franceafrique.free.fr sur cette question des citoyens français, savoir s'ils sont eux-mêmes responsables. Ils sont à la fois payeurs, puisque les contribuables participent à l'aide publique au développement. Et l'aide publique au développement, c'est beaucoup d'argent au niveau des collectivités territoriales. Ce qui peut être intéressant de voir, c'est dans les mairies, les jumelages, savoir où va l'argent, les jumelages avec des villes africaines. Moi, je pense notamment à Angers, il y a un jumelage avec Bamako, il me semble. Et donc, ce que j'ai constaté, notamment en m'informant, c'était très rapidement que l'argent n'allait pas forcément aux populations sur place. Et donc, l'importance de l'association Survie, c'est de rappeler que les citoyens français ont un rôle bien de démocratique, c'est-à-dire d'intervenir sur les élus pour savoir effectivement où va l'argent. Et moi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de désintéressement, effectivement. Comme nous sommes tous pris par notre travail, c'est assez difficile de demander aux citoyens d'intervenir tout le temps sur des questions compliquées. C'est la lourde responsabilité, c'est bien évidemment les acteurs de la France-Afrique, les réseaux France-Africains.
Concernant le jeune public, l'association Survie a-t-elle envisagé de mettre en œuvre les outils de communication qui lui permettent de mieux comprendre la situation des pays d'Afrique?
Alors il y a deux ans, quand j'ai commencé ce travail sur Rouen, j'ai rencontré des gens qui me disaient qu'il y avait des questions qui étaient posées dans les écoles par des enseignants sur ce problème très important, très actuel, sur les relations franco-africaines. Et disons que c'est des choses qui ont du mal à percer. Et moi, je pense beaucoup, et ça me touche, à ce que j'ai appris à l'école de Monsieur Jules Ferry, qui a inventé l'école laïque. Et nous, ce que nous rappelons à Survie, c'est que Jules Ferry, c'était maître d'œuvre du colonialisme à son époque. Ça, c'est des choses qui sont pas assez dans les livres d'histoire, et il y a beaucoup de censure, je pense, de ce qui se passe aujourd'hui, mais également de ce qui s'est passé il y a bien longtemps. Nous, notre souhait, c'est évidemment de pouvoir faire un travail sur l'histoire, et je pense notamment à un film très important qui est sorti récemment, Lumumba, et une critique dans un journal qui disait que l'histoire de l'Afrique ne se ferait pas en Occident, dans nos livres à nous, mais que la réelle histoire de ces pays se ferait dans les livres africains. Donc c'est vrai que c'est difficile ici d'avoir simplement la vérité sur ce que fait la France en Afrique. J'ai réussi à rencontrer des gens qui disaient qu'ils en parlaient dans les écoles. Notre souhait, c'est effectivement de faire venir ces questions à l'école et ça me paraît important pour le futur puisque ce sont les jeunes qui feront évoluer les choses pour l'avenir.
Pour ce jeune public, vous avez souhaité qu'on écoute le groupe Trio, qu'on écoute souvent sur RC2.
Oui. Trio travaille avec Survie. Ça fait partie, comme Tikenja Fakoli, des artistes qui se bougent pour l'Afrique.
Oui, on écoute Pompe Afrique.
RC2, la radio éducative.
J'ai toujours eu de l'admiration pour vous. J'ai toujours su que vous seriez avec nous. Je vous emmène dans nos nouvelles colonies à l'africaine.
Aux prédateurs tentaculaires,
aux boulimies monopolistes,
aux technocrates mercenaires,
quand la finance a ses artistes,
au terrain de jeu au soleil,
aux chaises longues pour politique,
Bolloré, Bouygues, Vivendi, Elf,
se servent sur la pompe Afrique,
Bolo Poli, Bolo Réseau,
Bolloré voyage au Congo,
Bolloré crée son arsenal,
rejoint la cour du général,
Bolocratie, Bolo la pieuvre,
regarde les devises qui pleuvent,
quand Bolo se roule à tarpé,
il ouvre une usine au CB.
J'ai toujours eu de l'admiration pour vous. J'ai toujours su que vous seriez avec nous. Je vous emmène dans nos nouvelles colonies à l'africaine.
Pars en colo en Angola, je connais tous les moniteurs, richissimes archi-corrupteurs. Y'a des armes et des œuvrés qui méritent qu'on leur tienne compagnie. Nous on fait la guerre en musique, on fait chanter la République.
France-Afrique, l'Immaculée, intérêt pétro-meurtrier. Pendant que l'Angola se viole, nous on fait l'amour dans le pétrole. Guinée, Togo, Bissau, Biafra, on est mouillés jusqu'au Rwanda. On a dopé vos dictateurs.
J'ai toujours eu de l'admiration pour vous. J'ai toujours su que vous seriez avec nous. Je vous emmène dans nos nouvelles colonies à l'africaine.
Si on écoulait notre vache folle sur le marché du Nigeria, à 2 francs le kilo, c'est du bon, je pourrais partir aux Bahamas. Mon banquier me trouve un peu pâle, mon compte a besoin de soleil. Faut que je trouve un paradis fiscal où me détendre les orteils.
Paradis, refuge planétaire,
pour portefeuille de mercenaires,
pour autres pilleurs de l'Afrique,
ou pour fumier démocratique.
Elles ont belle gueule nos colonies.
Bizarre, elf se fait griller.
Il faut balancer la politique africaine de l'Elysée.
J'ai toujours eu de l'admiration pour vous. J'ai toujours su que vous seriez avec nous. Je vous emmène dans nos nouvelles colonies à l'africaine. J'ai toujours eu de l'admiration pour vous. J'ai toujours su que vous seriez avec nous. Je vous emmène dans nos nouvelles colonies à l'africaine.
Pour cette journée, survivront un autre invité d'honneur, René Vautier, cinéaste engagé, né en 1928 en Bretagne. À 16 ans, René Vautier faisait de la résistance. À 20 ans, il était diplômé de l'IDEC, l'Institut des hautes études cinématographiques. À 21 ans, il réalisait Afrique 50, tourné en Côte d'Ivoire. Ce film, qui valut à son auteur un an d'emprisonnement, a été censuré en France pendant 50 ans. Ce film a été projeté à la fin de la manifestation à Rouen. J'ai rencontré René Vautier pour RC2. On l'écoute maintenant.
Interview.
Bonjour.
Salut, bonjour tout le monde.
Bonjour sur RC2.
René Vautier, bonjour. Vous êtes cinéaste bonjour. Militant originaire de Bretagne. À 16 ans, vous étiez déjà dans la Résistance. À 20 ans, vous étiez diplômé de l'IDEC, Institut des hautes études cinématographiques. Et depuis votre premier film en 1950, Afrique à 50, vous n'avez cessé, par cinéma interposé, de dénoncer les injustices qui découlent, selon vous, du colonialisme et du capitalisme. Cela vous a valu, je crois, très tôt beaucoup d'ennuis.
Oui, mais même avant 1950, parce que quand j'étais encore étudiant à l'IDEC, j'ai essayé de partir de l'IDEC pour faire un petit film avec une petite caméra sur les enfants de mineurs. C'était au moment de la grande grève des mineurs de 1948. Et les mineurs essayaient de placer les enfants pour les sortir d'une zone qui était pratiquement déclarée zone de guerre, avec l'armée qui voulait faire la pacification entre les terrils. Et puis, quand on voit les enfants qu'on va séparer des familles, on a fait un truc sur les enfants, et puis on est resté pour faire autre chose avec les mineurs après. Et ça a donné un film très corrosif, dont j'étais pas du tout responsable. Il y avait des professionnels bien plus qualifiés que moi. Mais c'est moi qui assurais la liaison entre les différents groupes, si bien que c'est moi qui ai été arrêté. Les responsables de l'IDEC, de l'Institut des hautes études cinématographiques, donc, ont reçu un rapport du ministère de l'Intérieur disant qu'il y avait un étudiant qui avait filmé des... et qu'il fallait sévir parce que, visiblement, s'il tournait pendant la grève des mineurs, il n'était pas à suivre les cours et il était boursier. Alors donc, il fallait sévir pour... Et la direction a dit, bah oui, c'est vrai, tu étais absente, mais qu'est-ce que tu as fait là-bas? Alors, on a montré les bouts de film que j'avais tournés, et la punition a été, René Vautier sera exclu pour 8 jours des cours de l'IDEC, avec les félicitations de la direction. Et ensuite, alors, quand je suis sorti de l'IDEC, alors on m'a proposé d'aller tourner un film pour la Ligue de l'Enseignement, et c'était sur la vie réelle des paysans africains en Afrique occidentale française. Alors je suis parti là-bas, et puis ça s'est très mal passé. Enfin, très, très mal sur le plan des rapports avec les pouvoirs coloniaux. Enfin, j'ai fait des images, j'ai réussi à en sauver une partie ensuite, et ça a donné Afrique 50, qui était le premier film anticolonialiste français, qui durait 20 minutes. On m'a saisi les négatifs, on m'a détruit les négatifs, mais on a pu faire tirer les copies par contact du montage que j'avais fait. J'ai été condamné à 1 an de prison, parce qu'il n'y avait pas le droit de tourner en dehors de la présence d'un représentant de l'autorité. C'était un décret Pierre Laval de 1934. Comme j'avais été décoré de la Croix de Guerre pour avoir lutté contre d'autres décrets Pierre Laval, eh ben, j'ai décidé de ne pas tenir compte du décret, j'ai continué à diffuser le film. Et puis, j'ai été condamné à 1 an de prison, mais je ne l'ai pas fait cette année de prison civile. J'ai fait un petit peu de prison militaire, mais enfin pas très longtemps, 7 mois.
À quel moment êtes-vous passé de la résistance à la lutte contre le colonialisme?
Ah ben, à ce moment-là, quand j'ai vu ce qui se passait là-bas et qu'on me disait il y a un décret Pierre Laval qui interdit de faire des prises de vue en dehors de la présence d'un représentant de l'autorité, j'ai dit non. Et Pierre Laval, on l'a fusillé en 45, et moi, on m'a donné la Croix de Guerre pour avoir lutté contre d'autres décrets Pierre Laval, alors allez-vous faire voir avec votre décret. J'ai continué, voilà. Et puis après, c'est resté comme ça. Après, j'ai été tourné en Tunisie, juste avant l'indépendance de la Tunisie. Je trouvais pas normal que l'armée française a sauté les maisons, parce qu'on dit maintenant que les Israéliens le font, et c'est vrai, malheureusement. Mais l'armée française le faisait déjà avant l'indépendance de la Tunisie pour protester contre, il y avait contre les gens qui réclamaient leur indépendance. Bon, ça n'a pas empêché l'indépendance de la Tunisie. Mais là, les images, j'ai pas pu les sauvé, c'est-à-dire qu'on m'a arrêté et on m'a ouvert les boîtes avant le développement de l'armée. Je suis rentré en France, puis j'ai tourné un film en me disant je serais peut-être tranquille pour tourner. J'ai été tourner un film à l'intérieur de la Bibliothèque nationale en me disant là au moins tout est déposé, tout est... Et j'ai fait un film sur la conquête de l'Algérie, un film que je destinais à l'éducation nationale. Et où j'ai appris certaines choses comme ça, que des gens devraient tous savoir, c'est que par exemple, on a inventé pendant la conquête de l'Algérie entre 1830 et 1860, disons, on a inventé les chambres à gaz. Il y a un colonel qui fait un rapport qui est déposé à la Bibliothèque nationale, dans lequel il dit quelques tribus contestataires pour nous fuir sont entrées dans les grottes du Dara. Nous avons fait allumer un grand feu et toute la nuit, nos petits soldats entretenaient le feu à l'entrée des grottes. La fumée entrait à l'intérieur et le jour suivant, nous avons sorti 732 cadavres, hommes, femmes et enfants. Et puis à côté, il y avait le général qui écrivait, mais c'est formidable, ça c'est très bien, voilà ce qu'il faut faire. Et il envoyait la copie à toutes les colonnes punitives à travers l'Algérie. Bon, et ben c'était dans le film parce que c'était dans les choses, les rapports déposés à la Bibliothèque nationale et que je voulais me baser sur les documents. Mais ça n'a pas été apprécié. On m'a dit, j'ai toujours la lettre des services de l'éducation nationale me disant, votre film est indubitablement exact. Mais il ne correspond pas aux directives concernant l'enseignement de la conquête de l'Algérie. Donc, nous ne pouvons pas l'utiliser.
Est-ce à cause de tout ce que vous avez vu que vous avez préféré le cinéma documentaire au cinéma fiction ?
Mais j'ai fait du cinéma documentaire quand on a essayé de m'interdire d'en faire. Je me suis dit, si l'on veut refléter une réalité, j'avais déjà cette expérience que même les documents d'histoire, on ne pouvait pas les utiliser. Or, je voulais faire du cinéma, aussi du cinéma d'enseignement, du cinéma documentaire, mais basé sur une réalité. Donc, pendant la guerre d'Algérie, quand j'ai appris qu'il était interdit d'aller tourner en Algérie, si on n'était pas membre de l'armée française, si on n'était pas, comme on dit maintenant, pendant la guerre d'Irak, on a dit que les journalistes étaient « embedded ». J'ai toujours trouvé que c'était curieux que les journalistes acceptent d'être embedded, c'est-à-dire foutus au queue, quoi. C'est mis au lit avec les forces américaines. Et là, moi, je ne voulais pas être embedded, mais je voulais quand même tourner. Alors j'ai dit que j'allais aller tourner, surtout lorsque j'ai appris que j'ai dû, en tant que responsable syndical, du syndicat des techniciens du cinéma, à défendre un gars qui s'appelait Chassagne, et qui avait filmé des soldats français qui poussaient des Algériens à s'éloigner quand ils faisaient 10 mètres, ils leur tiraient dans le dos, c'est ce qu'on appelait la corvée de bois. Et il a filmé ça, et on lui a dit, ensuite on a dit, oui mais c'est lui qui a dû payer les soldats pour qu'ils le fassent, et il a été expulsé, renvoyé en France, et il travaillait pour la Fox Mauviettone. Et il n'avait payé personne, il a filmé ce qu'il voyait, ce qui était son rôle de cinéaste d'actualité. Alors, c'est là que j'ai dit, bon, ben moi, je vais aller voir ce qui se passe là-bas, librement. On m'a tiré dessus quand je filmais. J'ai quand même réussi à monter un film qui s'appelait « Algérie en flammes », dont maintenant, Benjamin Stora dit, c'est un film absolument nécessaire, parce que c'est le seul qui permet de voir sur document ce qui se passait côté algérien pendant la guerre. Et puis, j'ai eu des problèmes parce que quand on est à mi-chemin entre les deux, je ne voulais pas travailler pour les Algériens. Je n'étais pas membre du FLN, je faisais des images sur une réalité, je la faisais à côté des Algériens qui se battaient. Bon, et puis maintenant, c'est effectivement les seuls documents pratiquement utilisables qui ont été tournés du côté des Algériens. Et puis ensuite, les Algériens qui se disputaient un petit peu entre eux aussi pour que je ne reflète pas leurs différends entre mon collègue en prison pendant 25 mois dans une cellule de condamnés à mort, disait-on, dans une prison donc du FLN, et on me recherchait côté français pour me mettre dans une prison française. Et puis voilà, c'est là que je me suis dit il faut à tout prix former des Algériens, et c'est comme ça que je me suis dit au fond cinéaste, d'accord, mais d'une part, je vais tourner, moi, des choses avec les Algériens qui n'ont pas eu la possibilité de se former en 130 ans, ou en 100 ans d'image, mais sous la présence française, il n'y a pas eu un seul cinéaste algérien formé. Donc, quand je sortirai des prisons algériennes, je vais faire un centre audiovisuel à Alger pour former des gens à l'utilisation du matériel cinéma. Et puis c'est comme ça que les Algériens m'appelaient jadis Bouya. Après, Bouya, c'est papa. J'étais le papa du cinéma algérien. Et maintenant, ils m'appellent Jed, ce qui veut dire grand-père. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte qu'on vieillit, ma pauvre dame, on vieillit.
Non, pas du tout. Moi, je trouve que vous n'avez pas pris une ride, monsieur. Dans quel pays iriez-vous si on vous demandait aujourd'hui de faire un film sur la démocratie ?
Je n'ai pas été faire un film sur la démocratie. Je fais en ce moment, en France, un film sur la censure. Et qui sera un film éminemment démocratique, mais à partir d'expériences personnelles. Et là, j'ai fait auparavant un film à partir de témoignages d'appeler et de rappeler sur la guerre d'Algérie. Il y a eu le grand prix de la critique internationale au Festival de Cannes, qui ressort maintenant. Non, il était déjà sorti très discrètement sur France 3 il y a 25 ans. Et puis, maintenant, il est sorti sur Arte dernièrement, avec, par rapport aux autres passages de films sur Arte, avec un taux d'écoute qu'ils ont trouvé assez extraordinaire. Bon. Et puis, donc, ça prouve que les gens aimaient bien ce qu'on faisait. Et puis, j'ai fait d'autres films ensuite. Mais là, pour moi, ce film était indispensable parce qu'il reflétait les enregistrements que j'avais faits d'appeler et de rappeler, qui me racontaient aussi leur guerre. Et puis, après que j'ai fait ça, j'avais aussi enregistré les témoignages des Algériens qui avaient été torturés pendant la guerre. Et j'ai donné tous ces documents au Canard Enchaîné au moment où Le Pen, traité de tortionnaire par le Canard Enchaîné, portait plainte. Et on a passé au procès du Canard Enchaîné les images des Algériens que j'avais filmées. Ce qui fait que, quelques jours après, tous les documents que j'avais en Bretagne, dans un fort qu'on avait mis à ma disposition pour la conservation des documents, les deux portes ont été fracturées et j'ai perdu 60 kilomètres, 60 heures de film qui ont été coupés à la hache, à la cisaille. Voilà. Et maintenant, si j'avais à aller quelque part, ce serait aussi pour donner la parole aux gens à qui on la refuse. Et j'irais dans les endroits où on détruit, où les armées détruisent comme premier objectif les chaînes de télévision. J'aurais été au Kosovo et j'aurais été, si je n'avais pas eu 75 ans, j'aurais été à Bagdad et j'ai été là pour présenter des films, y compris avoir 20 ans dans les ORS, et discuter sur les gens qui refusent de porter les armes quand ils estiment que c'est de leur devoir de refuser. J'ai été projeté à avoir 20 ans en SOS pour les refusniks en Israël et ils m'ont offert en échange quelque chose. Mais c'est une petite anecdote qui vaut la peine. Il y a eu une grande discussion quand, en tant que Français, je présentais un film comme ça sur le devoir de désertion en certains cas. Il y a eu une grande discussion dans la salle à Jérusalem. L'interprète a dit « Oui, mais monsieur Vautier, vous devriez quand même vous rendre compte que les Arabes sont venus au Stade de France et ont sifflé la Marseillaise, ont envahi le terrain au moment où il y avait un match Algérie-France pour... Et il y a des gars qui sont venus dire « Oui, mais nous, si vous voulez, ce qu'on voulait justement offrir à René Vautier, c'est une chanson. » Et il dit « Vous ne voulez pas lui offrir la Marseillaise ?» dit l'interprète. Il dit « Non, mais on va lui offrir cette chanson-là qu'on a enregistrée ici avec un grand chanteur israélien. » Et le grand chanteur israélien chantait en français « Le déserteur » de Boris Vian. Et ils m'ont offert la cassette.
On l'écoutera pour ça. Merci beaucoup, monsieur.
Sur RC2 et en cadeau à René Vautier, nous écoutons Le Déserteur de Boris Vian.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Je suppose que le film Afrique 50 a suscité des réactions du public rouennais.
Le film Afrique 50, ça a été un privilège donc pour le public rouennais de pouvoir voir ce film, qui est donc un film qui a été censuré par l'État et qui a été reconnu de nombreuses années plus tard comme un film d'importance pour la France par le ministère des Affaires étrangères. Donc c'est un film qui, dès les années 50, montre, démontre et explique que la France intervenait et... Contre les Africains et puis les pays du précaré. Donc à Rouen, les gens ont été absolument stupéfaits de découvrir ce film et il y a eu des réactions étonnantes. Je suis très très heureux d'avoir pu donc projeter ce film à Rouen en présence de son auteur, Monsieur René Vautier. C'était absolument émouvant de voir Monsieur René Vautier devant son film présenté à Rouen.
Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'un autre monde soit encore possible?
Alors justement, c'est le débat posé par Attac, que Survie travaille avec Attac. Un autre monde est possible? Oui, j'ai posé la question à M. Varchav, est-ce que d'ici 10 ans, vous pensez que la France-Afrique va disparaître? Il m'a répondu que ça allait être très difficile. C'est des questions qui sont tabous en France. C'est très difficile de faire venir ces questions dans les grands médias. Déjà, les médias principaux sont censurés. Par contre, au niveau local, on a pu faire passer des papiers dans Paris-Normandie, Liberté Dimanche, Sorton.net. Au niveau local, on arrive à faire passer le message, on est assez content. Il y a des choses positives. On a gagné un procès, Survie a gagné un procès contre 3 dictateurs récemment. Et puis il y a des choses qui s'organisent. Depuis 1981, Survie a réussi à faire passer une loi à l'Assemblée nationale. Nous intervenons sur les élus. Et à Rouen, nous souhaitons donc savoir un peu où va l'argent au niveau territorial, où va l'argent des jumelages, etc.
Il nous faudra, pour mieux comprendre, lire l'ouvrage collectif qu'est venu présenter M. El Badaoui, écrivain comorien, Dernière nouvelle de France-Afrique, paru aux éditions Vendailleurs. Voulez-vous nous donner les coordonnées de l'association Survie?
Alors l'association Survie, donc Survie Rouen, vous pouvez donc me contacter directement au 06 08 70 25 24 par email matjules@free.fr. Également sur le site internet, vous retrouvez les coordonnées de Survie Nationale, le site franceafrique.free.fr.
Vous voulez bien nous redonner le numéro de téléphone?
Donc c'est le 06 08 70 25 24.
Merci Mathieu Jules. Avant de nous quitter, on écoute l'intervention de Madame Arinata Traoré, ancien ministre de la Culture au Mali, lors du festival de Langon. Écoutez, c'était dans Nuits Atypiques.
RC2, la radio éducative.
Je remercie. remercie du fond du cœur ce public qui conforte en moi le sentiment que l'Afrique, qui est dans le creux de la vague, bénéficie quand même d'une écoute certaine à l'extérieur. Je me dis souvent que c'est extrêmement difficile de l'intérieur de nos frontières de desserrer l'étau. C'est d'autant plus difficile que nous ne parvenons pas justement à bénéficier de ce type d'espace de débat et d'échange. Et donc, je suis touché par votre présence ici. Et c'est une chance, non pas pour moi, je regrette, au-delà de ma modeste personne, c'est le sort de tout un continent qui constitue peut-être l'organe malade. Le monde entier se porte mal, mais l'Afrique va particulièrement mal en raison de l'orientation et de la nature des rapports nord-sud. Je crois que c'est de cela surtout qu'il s'agit. J'en parle tout simplement parce que à partir du Mali où je vis, où j'ai grandi, j'ai tout simplement pu constater que le discours dominant sur l'Afrique est non seulement mensonger, qu'il est condescendant et misérabiliste.